Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. S'il n'y avait plus de doute à avoir quant au fait que nos fleuves soient pollués, l'idée que cela puisse être dû en partie à des médicaments peut surprendre et pourtant c'est bien là ce qu'atteste une nouvelle étude scientifique de laquelle il ressort que d'importantes quantités d'antibiotiques ont été détectées dans de très nombreux cours d'eau de la planète.
L'avenir de l'insubmersible Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis plus de 10 ans sans discontinuer, semble à présent et plus que jamais en question.
Et le Premier ministre a jusqu'à ce soir minuit pour bâtir une coalition de gouvernement sans quoi les Israéliens devront retourner aux urnes.
2 jours après l'explosion du duopole conservateur socialiste lors des élections européennes, le visage du prochain Parlement de Strasbourg, Thomas, continue de prendre forme, mais dans la douleur.
Oui, bien qu'ayant remporté le scrutin, le net recul enregistré par le PPE l'oblige à présent à devoir composer avec au moins 2 autres blocs pour s'assurer une majorité dans l'Assemblée communautaire. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Geoffrey Livolzi, journaliste à Disclose, auditionné il y a quelques jours par la DGSI pour avoir produit une enquête sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La Silicon Valley n'est pas qu'une terre d'innovation, c'est aussi un territoire politique. L'idéologie de la Silicon Valley, ils sont plusieurs à s'être penchés sur cette question, et notamment notre premier invité, le journaliste Fabien Benoît, qui signe The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, et le philosophe Emmanuel Alloa, qui a coordonné un dossier consacré à cette question dans le nouveau numéro de la revue Esprit.
Merci et à tout à l'heure. Parce qu'elle met en scène le cataclysme à venir, tout en façonnant l'imaginaire de la fin, l'urgence écologique dont l'enjeu n'est rien moins aujourd'hui que le salut de la planète est devenu une inépuisable matière à récit où la réalité dépasse désormais bien souvent la fiction. Nouvelle illustration de cette nature souillée où l'homme lui-même pourrait être infecté. Une étude scientifique publiée cette semaine par des chercheurs britanniques nous apprend que les fleuves et rivières du monde entier sont aujourd'hui pollués par les antibiotiques. Cette contamination invisible à l'œil nu se vérifie non seulement dans les 2/3 des échantillons analysés à travers les 6 continents, mais aussi dans des proportions dépassant parfois largement le seuil de sécurité. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Les scientifiques ont examiné l'eau des rivières traversant donc 72 pays à la recherche de 14 antibiotiques couramment utilisés.
Étude réalisée sur 6 continents sur 711 sites en tout à travers le monde, quand jusque-là ce travail sur la pollution par les antibiotiques avait été fait majoritairement en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, et souvent sur une petite poignée avec une petite poignée d'antibiotiques. Grâce à cette étude britannique, on sait désormais que le phénomène de contamination des fleuves, des rivières et même des voies navigables est mondial. Le métronidazole, c'est l'antibiotique qui dépasse le plus les niveaux acceptables. Cet antibiotique utilisé contre les infections de la bouche et de la peau est retrouvé dans l'eau à des concentrations allant jusqu'à 300 fois le seuil sur un site du Bangladesh, par exemple en Inde. Le niveau est aussi dépassé en Grande-Bretagne, dans la Tamise qui traverse Londres. L'antibiotique qui dépasse le plus souvent le seuil de sécurité est le ciprofloxacine. C'est un constat qui a été fait sur 51 sites à travers le monde, tandis que le trimétoprime, utilisé dans le traitement des infections urinaires, est le plus fréquemment retrouvé dans les fleuves et rivières à travers le monde. Globalement, selon cette nouvelle étude, c'est en Asie et en Afrique que les niveaux acceptables sont le plus souvent dépassés. Les sites les plus problématiques se trouvent donc au Bangladesh, au Kenya, au Ghana, Pakistan et Nigeria. Mais encore une fois, la contamination des eaux par les antibiotiques est mondiale.
Et puis si cette pollution des eaux est évidemment un problème environnemental majeur, elle constitue aussi une crise sanitaire de grande ampleur. Pourquoi ? Parce que les scientifiques craignent que les antibiotiques présents dans les rivières entraînent une résistance des bactéries, ce qui signifie qu'ils ne pourraient plus être utilisés comme médicaments pour les êtres humains.
À être tous sous antibiotiques en permanence, pour ce que nous consommons sans savoir, eh bien, ces eaux des fleuves et rivières, c'est la base de l'eau du robinet hein, chez nous, et les stations d'épuration ne font pas disparaître les résidus médicamenteux. Notre urine, par exemple, se retrouve dans ces fleuves, et bien, où est prélevée l'eau que nous consommons, bien à boire des résidus d'antibiotiques, on devient résistant aux antibiotiques, puisque nous en consommons toute l'année. Les bactéries contre lesquelles nous voulons lutter par la prise d'antibiotiques lorsque nous sommes malades, et bien, peuvent devenir résistantes, jusqu'à devenir inefficaces pour l'homme, alerte les Nations Unies. La résistance aux antibiotiques pourrait tuer jusqu'à 10 millions de personnes d'ici 2050, quand les antibiotiques ont sauvé des dizaines de millions de vies depuis leur découverte en 1920. Que faire ? Eh bien déjà revoir les infrastructures de traitement des eaux usées.
Merci Véronique Robérotte. Alors si la cause écologique, c'est vrai, vient de se redonner quelques espoirs politiques à l'issue des dernières élections européennes. Ces chantiers n'en restent pas moins gigantesques. C'est aussi le cas s'agissant du traitement des déchets. Depuis que la Chine a arrêté l'an dernier l'importation des déchets plastiques et papier, la Malaisie est devenue la principale destination des rebuts de la planète, et c'est ainsi qu'hier, refusant de devenir la poubelle du monde, bien les autorités de Kuala Lumpur ont décidé de retourner à l'envoyeur 3000 tonnes de déchets plastiques. Au total, 14 pays, dont la France, sont concernés par cette décision. Quand la perspective de nouvelles élections se profile de plus en plus nettement en Israël, lundi dernier, Benjamin Netanyahu affirmait qu'il lui restait assez de temps pour former enfin une coalition de gouvernement, sauf que l'échéance arrivera à son terme ce soir à minuit, et que le Premier ministre se heurte jusqu'à présent à un véritable mur en la personne de son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, lequel n'a donné jusqu'à présent aucun signe de vouloir céder sur une quelconque exigence pour accepter de participer au gouvernement. Devant cette apparence impasse, le parti de droite de Benjamin Netanyahu a d'ailleurs initié la dissolution du Parlement au tout début de semaine. Une date a même été fixée provisoirement pour de nouvelles élections le 17 septembre. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors en réalité, une multitude de scénarios reste encore possible. D'autant que cette décision du Parlement lundi dernier de voter en lecture préliminaire sa propre dissolution a toutes les apparences, Étienne, d'une tactique pour que le maître manœuvrier qu'est Benjamin Netanyahu conserve la main.
Oui, et c'est un moment de vérité quand même pour le Premier ministre, parce que s'il parvient sur le fil à former dans ces conditions sa coalition, il restera le Magic Bibi, l'indétrônable maître en politique. S'il échoue, on pourra dire qu'il a été touché par l'usure du pouvoir et l'effet indirect des affaires judiciaires. Alors qu'il est, on est dans le compte à rebours. Le débat sur la dissolution du Parlement a été lancé il y a un peu plus d'une heure. Le vote pourra avoir lieu ce soir à minuit. Il a été initié par le parti du Premier ministre pour court-circuiter le président israélien, pour éviter la désignation d'un autre élu s'il ne parvient pas à former le gouvernement. Une nouvelle élection 5 mois après un premier vote, ce serait une première en Israël. Tous les éléments sont en place pour ce scénario et le blocage semble sérieux. Avigdor Lieberman avait déjà créé une crise politique en démissionnant du gouvernement en novembre dernier. À l'époque, c'était sur le sujet de Gaza. Cette fois, il a changé de terrain. C'est sur la laïcité. L'ultranationaliste combat les positions des ultra-orthodoxes. Il dénonce l'instauration d'une théocratie, dit-il, en Israël. Mais en arrière-scène, il est soupçonné de vouloir se tailler un nouveau costume politique sur le thème de la droite dure laïque pour tenter d'élargir son audience après avoir vu passer de près le couperet du seuil plancher sur les dernières élections. On le soupçonne aussi de vouloir régler des comptes avec le Premier ministre qui est aujourd'hui menacé de perdre une élection qu'il a triomphalement remporté il y a moins de 2 mois.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem. C'est un énième épisode des tensions commerciales croissantes entre les deux principales économies de la planète après l'offensive de Donald Trump contre Huawei, fragilisée aujourd'hui par un embargo sur les puces électroniques américaines indispensables à la mise en place de sa technologie 5G. Le groupe chinois a lancé à son tour une nouvelle contre-attaque ce matin face à l'administration de Washington. Le géant chinois des télécoms a annoncé qu'il avait demandé à un tribunal américain d'annuler l'interdiction faite aux administrations fédérales d'acheter ses équipements. Les précisions à Pékin de Dominique André.
Pour annoncer son action en justice, Huawei a invité la presse à venir à son siège à Shenzhen, cité symbole de la high-tech chinoise. Le directeur juridique de la firme, soupçonné d'espionnage par l'administration Trump, s'est adressé à la presse nationale et étrangère. Huawei part en guerre pour obtenir la levée de l'interdiction faite aux administrations fédérales aux États-Unis d'acheter ses équipements et services. Le référé de Huawei est déposé devant un tribunal américain, indique Song Liuping.
Aujourd'hui, Huawei annonce avoir lancé une action en justice contre le gouvernement américain pour contester le caractère anticonstitutionnel de la loi sur la défense nationale. Les restrictions qui ciblent Huawei sont anticonstitutionnelles. Le Congrès américain a échoué à publier les preuves qui justifient ces interdictions contre les produits fabriqués par Huawei.
Selon Huawei, l'interdiction américaine affecterait plus de 1200 fournisseurs et au bout de la chaîne, ce sont 3 milliards de ses clients qui pourraient être touchés dans 170 pays. Aujourd'hui, c'est Huawei, mais demain, ce pourrait être votre société, votre secteur qui pourrait être visé, prévient le groupe chinois qui veut sortir du bras de fer qui l'oppose à Washington.
Et puis toujours en pleine guerre commerciale sino-américaine, j'ajoute que Pékin a décidé de menacer les États-Unis de ne plus leur ouvrir l'accès aux terres rares produites en Chine, comprenez un ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe que l'on retrouve par exemple dans les smartphones, les écrans plasma, mais aussi les véhicules électriques ou bien encore l'armement, une ressource absolument stratégique donc, d'autant plus que le géant asiatique produit aujourd'hui plus de 90% des terres rares de la planète, ce qui signifie que le cas échéant, les États-Unis n'auraient que très peu d'alternatives. Washington a accentué un peu plus encore hier la pression sur Caracas, exigeant que les discussions en cours à Oslo entre les représentants de Nicolas Maduro et de son rival Juan Guaido porte d'abord sur le départ du président socialiste vénézuélien. Ces pourparlers sous les auspices de la Norvège doivent a priori s'achever aujourd'hui. Jusqu'à présent, rien n'a filtré sur leur contenu ni sur leur forme. Par ailleurs, le gouvernement du président élu Nicolas Maduro a lui reconnu hier l'état désastreux de l'économie de son pays, même si les chiffres publiés pour la première fois depuis 3 ans restent très éloignés des estimations du Fonds monétaire international. Ils n'en demeurent pas moins catastrophiques et sont aussi et surtout une manière pour le régime de Caracas de pointer une fois de plus les très lourdes sanctions financières imposées par les États-Unis. Quand la maison Europe prend de plus en plus des allures de boutique, les négociations sur les postes européens les plus importants qui seront tous à pourvoir dans les prochains mois ont commencé hier lors d'un sommet informel à Bruxelles, mettant notamment en lumière une divergence entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sur la présidence de la Commission européenne. Quand la chancelière a une nouvelle fois soutenu la candidature du conservateur Manfred Weber, tête de liste du parti de centre-droit PPE, la première force au Parlement de Strasbourg, le président français plaide lui pour un responsable européen de la famille des libéraux, voire des socialistes. Et dans ce bras de fer, eh bien, Emmanuel Macron a d'ores et déjà atteint un premier objectif, puisque le Conseil confirme que le principe du Spitzenkandidat, qui veut que le candidat du groupe arrivé en tête aux élections devienne président de la Commission, ne s'applique plus de façon automatique. Alors ces négociations qui s'annoncent difficiles témoignent en réalité de la nouvelle fragmentation du Parlement européen après le recul enregistré tant par le centre droit que par le centre gauche. Or, à l'heure où chacun compte ou plutôt recompte ses forces, on notera notamment combien le psychodrame qui s'était joué autour du cas d'Orban au sein du PPE semble loin désormais. Après une campagne d'affichage calomnieuse, le Parti populaire européen avait décidé de suspendre le parti du Premier ministre hongrois. Mais ça, c'était avant que le scrutin de dimanche dernier ne vienne changer quelque peu la donne. Les explications de Marie-Pierre Véraud.
Viktor Orban et son fidège sont-ils toujours infréquentables? La réponse n'a rien d'évident pour un PPE qui certes demeure la première formation, mais a perdu des plumes, plus d'une trentaine de sièges. Difficile donc de négliger les 13 eurodéputés hongrois du Fidesz, surtout à l'heure où les postes se négocient. Le PPE n'a d'ailleurs jamais souhaité insulter l'avenir. Même lorsque son hégémonie était plus forte, il n'a pas lâché le parti de Viktor Orban. Malgré ses atteintes à l'état de droit, ses campagnes haineuses contre Bruxelles ou les migrants, le Fidesz n'a été que suspendu et non exclu. De son côté, le Premier ministre hongrois a lui pris garde de ne pas aller trop loin. Il a certes clamé sa détestation de Manfred Weber, le candidat du PPE à la présidence de la Commission. Il a certes multiplié les contacts avec l'Italien Salvini, mais il a snobé le rassemblement des nationalistes européens à Milan et constate que face à des souverainistes désunis et moins nombreux qu'espérés, il est politiquement plus habile de rester au sein du premier groupe. Bref, les intérêts bien compris de chacun poussent plutôt à l'entente.
Et du côté des formations populistes d'extrême droite, là aussi les intérêts bien compris de chacun devraient plutôt pousser à l'entente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marine Le Pen est arrivée dès hier soir à Bruxelles pour travailler à la constitution au Parlement européen du super groupe, selon ses propres termes, que le Rassemblement national ambitionnerait de piloter notamment avec la Ligue italienne de son allié Matteo Salvini. Maxence Lambrecq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors dans les faits, Maxence, il semble malgré tout que la présidente du Rassemblement National pourrait bien être rapidement confrontée à une toute autre réalité que celle escomptée.
Oui, fini les slogans de campagne et place aux arides négociations pour décrocher quelques sièges en plus et donc davantage de moyens. En ce moment, elle scelle une alliance avec les Espagnols de Vox qui ont obtenu 3 sièges. Elle a beau ne pas avoir été élue dimanche, Marine Le Pen tient à être ici pour tenter de garder le leadership sur le camp nationaliste dominé par la Ligue de Matteo Salvini. Et d'ailleurs, sa tête de liste, Jordan Bardella, et même l'ancien ministre Thierry Mariani sont absents aujourd'hui. Pour l'instant, leur compteur affiche avant le Brexit 76 eurodéputés contre 36 dans le mandat précédent, deux fois plus d'élus, donc du plus petit groupe au quatrième groupe du Parlement. La troisième place tant convoitée leur échappe, parce que certains alliés comme les Néerlandais ou les Slovaques ont perdu dimanche, et parce que les Polonais et les Hongrois au pouvoir ne veulent pas d'une alliance avec Marine Le Pen, on vient d'en parler. Impossible donc de constituer ce groupe unique, de former une majorité. Ils vont simplement compliquer la vie des partisans de l'Union européenne et non pas démanteler Bruxelles, mais s'en servir comme d'une tribune.
Merci Maxence Lambrec en direct de Bruxelles ainsi qu'à Romain Lukiens pour les moyens techniques. Au lendemain de l'annonce par le groupe américain General Electric de sa volonté de supprimer plus de 1000 postes en France, l'intersyndicale appelle aujourd'hui le gouvernement à stopper, je cite, un scandale et un carnage. Plusieurs responsables politiques sont également montés au créneau ce matin pour dénoncer la responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce dossier, de même que le calendrier de l'annonce de cette suppression d'emplois juste après les élections européennes. Quoi qu'il en soit, ces suppressions d'emplois interviennent donc 4 ans après la reprise de la branche énergie d'Alstom par le groupe américain. À l'époque, General Electric avait plutôt promis des créations d'emplois, sauf que ce genre d'ambition claironnée ne correspond pas à la logique même d'une fusion acquisition, ou dit autrement, tout était probablement joué d'avance, comme l'explique d'ailleurs Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique et auteur du livre Alstom, scandale d'État. Il est interrogé par Léa Gage.
Alstom Energy a été racheté parce que les Américains menaçaient Alstom d'amendes absolument colossales pour des affaires de corruption. Donc ils ont été obligés de vendre Alstom Energy à General Electric. À chaque fois, on nous fait le même discours. On vous met comme argument les synergies, c'est-à-dire les économies. Alors là, on nous expliquait que Jeffrey Immelt, à l'époque le patron de General Electric, avait identifié pour plusieurs milliards d'euros de synergies chaque année. Les synergies, ça veut dire diminution des coûts. Donc, au bout du compte, ça veut dire diminution des personnels, diminution de la masse salariale, diminution des dépenses de recherche-développement, diminution des sites. Des engagements avaient été pris lorsqu'ils ont acheté la branche énergie d'Alstom en 2015. General Electric s'était engagé à créer 1000 emplois nets, bah, ils vont supprimer plus de 1000 emplois nets, c'est tout. Mais c'était prévu. Alors pourquoi General Electric défend les intérêts de ses actionnaires américains et donc qui rapatrie aux États-Unis une partie de l'activité des turbines à gaz qui est effectivement en diminution sur le marché mondial. Et ça se fait au détriment, bien évidemment, des sites français. C'est le principe, si vous voulez, des fusions, acquisitions, etc. Il faut faire de la rationalisation. Le but des fusions, quand vous absorbez quelqu'un, c'est bien pour récupérer sa part de marché et ensuite pour réduire les coûts. Vous avez un très bel exemple, c'est Alcatel. Alcatel qu'on a fusionné avec l'américain Lucent. Cette fusion a été évidemment un échec. Et ensuite, Alcatel, Lucent, ce qu'il en restait, a été racheté à la casse par Nokia. Et les Français qui étaient les leaders mondiaux des télécommunications au début des années 90, bah aujourd'hui, on n'est plus rien. Non, mais dans les fusions, c'est une règle. Dans les fusions, 1 + 1 ne fait pas 2.
Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique et auteur du livre Alstom, scandale d'État. Il répondait à Léa Gage. La lutte des salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens était devenue le symbole des délocalisations industrielles. Elle s'était d'ailleurs invitée dans la dernière campagne présidentielle avec notamment une passe d'armes sur place entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen durant l'entre-deux-tours. Et bien un an tout juste après la reprise du site par un industriel local, les inquiétudes des ex-salariés de Whirlpool étaient visiblement fondées. L'entreprise, sans débouchés commerciaux suffisants, a été placée hier en redressement judiciaire. La liberté de la presse et celle d'informer ne sont ni menacées ni réduites en France. Voilà comment, vendredi dernier, Emmanuel Macron avait tant bien que mal tenté de défendre et plus encore de justifier la convocation récente de plusieurs journalistes à la DGSI. Mesure qui depuis suscite protestations et inquiétudes au sein de la profession. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Geoffrey Livolzi, journaliste à Disclose. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, ou plutôt pour vous questionner, car il ne sera pas question d'interrogatoire. Antoine Marette, bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous avez vous-même, monsieur Livolzi, été auditionné donc il y a quelques jours par la DGSI pour avoir produit une enquête sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Ce matin encore, c'est au tour de notre consoeur du Monde, Ariane Chemin, d'être convoquée donc au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est la 8e journaliste en quelques semaines. Ça commence à faire beaucoup.
Effectivement, c'est sans précédent dans notre pays. En moins d'un mois, 5 journalistes ont été auditionnés. En quelques mois, avec les journalistes du quotidien, on atteint maintenant 8 personnes.
Et
Radio France aussi. C'est vraiment inédit, je pense, aujourd'hui, d'avoir autant de procédures contre des journalistes.
Alors votre cas est très différent de celui d'Ariane Chemin, puisque Ariane Chemin, c'est une personne qui a porté plainte, un sous-officier de l'armée de l'air, membre des forces spéciales, Chokri Wakrim, cité par la journaliste car impliqué dans l'une des affaires Benalla. Or, depuis 2016, il est interdit de révéler l'identité d'une personne appartenant à ces unités des forces spéciales. Vous, on vous a reproché de ne pas avoir respecté le secret défense, et vous l'assumez totalement. Vous dites dans votre site, des documents classés confidentiels défense prouvent que des armes françaises peuvent tuer des civils au Yémen. Vous l'assumez totalement.
Nous, on assume d'avoir publié ces documents confidentiels défense. Ils sont toujours en ligne actuellement. On assume parce que ce sont des informations d'intérêt public. Et ce sont des informations, on l'a déjà dit, qui ne mettent pas en danger des opérations militaires françaises ou des agents militaires français sur le terrain. On est vraiment sur des documents, on va dire, qu'on peut appeler services après-vente de vente d'armes suite à des accords commerciaux. Et certes, ils sont couverts par le confidentiel défense, mais ce que révèlent ces documents, ce sont des informations d'intérêt public.
Alors on vous a auditionné donc il y a une quinzaine de jours pendant une heure. Vous avez refusé de répondre aux questions, 7 pages de questions en tout. Ça s'est passé comment, cette audition ?
Écoutez, ils nous ont sorti le décorum. On va dire qu'on a été amené dans le quatrième sous-sol de la DGSI, dans des salles d'interrogatoire capitonnées. Et dans cette heure qui s'est écoulée assez rapidement parce qu'on a effectivement refusé de répondre aux questions, ils ont décliné 7 pages au total de questions, qui allait des logos de Disclose à la structuration financière du média à nos médias partenaires comme Radio France par exemple.
Précisons que vous étiez sous le régime d'une audition libre. Vous étiez donc représenté par votre avocat. Lui, il a dit quelque chose ?
Il s'est exprimé au début notamment sur le fait et pour dénoncer cette procédure qui contourne la loi de la liberté de la presse.
Est-ce que vous avez eu des suites ? En tout cas, vous les connaissez, les suites ?
La dernière suite, c'est qu'un troisième journaliste de Disclose a été entendu hier, mais sous le statut de témoin cette fois dans cette enquête.
Sans avocat ?
Sans avocat. C'est là peut-être le petit changement qu'ils ont effectué parce que ça permet effectivement d'entendre sans avocat. Il a non pas gardé le silence mais invoqué le secret des sources pour ne pas répondre à ces questions. Maintenant on est dans l'attente de savoir quelle va être la suite. Est-ce qu'il va y avoir d'autres auditions ou pas de journalistes de Disclose ?
Alors pour l'instant, 8 auditions en quelques mois, c'est beaucoup. Donc 7 pour les affaires au Yémen. Mais très peu de condamnations de journalistes derrière pour révélation de secret défense. Et pourtant, donc, toutes ces auditions, alors pourquoi auditionner les journalistes si c'est pour ne pas les condamner après ?
Alors, il y a deux intérêts. Le premier, c'est pour eux de trouver les sources des journalistes, que ce soit dans l'affaire qui concerne Madame Chemin que l'affaire du Yémen, c'est d'identifier nos sources. Le deuxième, c'est d'envoyer une nouvelle fois un message aux sources des journalistes en leur disant nous allons vous traquer, nous allons vous chercher si vous informez les journalistes de secrets d'État. Et enfin, aussi d'intimider directement les journalistes et surtout de nous occuper parce que tout le temps qu'on passe à se défendre et aller aux auditions de la JSI, c'est du temps qu'on ne passe pas à enquêter.
Qui intimide ?
Qui intimide, à ce niveau-là, c'est compliqué de savoir. C'est mené par le parquet de Paris. Le parquet de Paris, c'est un procureur qui a été récemment nommé par le président de la République, qui avait refusé, pour la première fois, Mediapart en avait parlé, toutes les propositions du ministère de la Justice et avait donc imposé le procureur actuel de Paris. Procureur aux ordres ou pas, c'est la question. En tout cas, il y a clairement une volonté aujourd'hui, réaffirmée par tout l'exécutif et Emmanuel Macron en premier, de mener des procédures contre les journalistes qui dévoilent des sujets d'intérêt public.
L'ombre d'Emmanuel Macron plane sur ces auditions, selon vous ?
Elle plane, c'est compliqué de le dire aujourd'hui et d'accuser ou de le savoir. En tout cas, il y a une volonté aujourd'hui de l'État de s'attaquer à une partie de la presse qui enquête.
Merci Geoffrey Livolzi, journaliste, je le rappelle, à Disclose, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Antoine Marette. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera marqué partout par le retour des éclaircies, à l'exception du quart nord-ouest et du littoral de la Manche, où le ciel pourra se couvrir, apportant même parfois quelques pluies. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 15 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Fiona Mogadam pour le prochain journal de la rédaction.